Chapitre 4. Jane Hawke laissa derrière elle Palm Springs, Rancho Mirage, Indian Wells et La Quinta. Indio, à la limite de la faille de San Andreas, contrastait avec l'opulence des cités voisines et n'avait rien d'un lieu de villégiature, avec son décor poussiéreux, ses industries et commerces agricoles. Ferrante Escobar, le neveu d'Enrique de Soto, dirigeait une affaire honnête en customisant des véhicules haut de gamme pour une clientèle aisée dans de vastes ateliers implantés dans une zone industrielle. La présence d'un poste de garde à l'entrée s'expliquait moins par la valeur des véhicules entreposés là que par la présence du sous-sol secret, dissimulé sous l'un des trois hangars de tôle et de béton dans lequel le propriétaire des lieux menait un trafic d'armes lucratif. Les ouvriers venaient d'entamer leur journée lorsque Jane se présenta à l'entrée du site peu après 7 heures du matin. « Bonjour !» dit-elle au garde dans sa guérite, en lui tendant un faux permis de conduire. « Elinor Dashwood, j'ai rendez-vous avec Monsieur Escobar. » Le garde lui indiqua le troisième bâtiment dont elle vit sortir Ferrante au moment où elle se garait. À peine âgée de 30 ans, mince, beau garçon, la barbe soigneusement taillée, il avait la grâce d'un matador et s'exprimait d'une voix harmonieuse. « Ravi de vous rencontrer. Vraiment ravi. » Avec son allure d'adolescent bien élevé, nul n'aurait pu deviner qu'il menait une double vie, même s'il paraissait bien jeune pour se trouver à la tête d'une affaire aussi florissante. À l'évidence, son oncle Ricky lui avait fourni les fonds nécessaires. Et comme De Soto et son neveu n'avaient pas de secret l'un pour l'autre, Ferrante connaissait la véritable identité de sa visiteuse. « Je vous suis reconnaissante du risque que vous prenez en m'accueillant ici. » Il hocha la tête, presque timidement, avec déférence. La main qu'il tendait était ferme, mais il baissa les yeux lorsqu'elle voulut croiser son regard. « Les véhicules fournis par mon oncle doivent arriver à 11 heures. Je vous propose de patienter dans le salon réservé à la clientèle. » Vous y trouverez du café et des donuts ainsi que la télévision. Ricky vous a-t-il précisé que j'avais besoin d'une arme de poing? J'aimerais un Eckler & Koch compact de calibre 45. Aucun souci. Souhaitez-vous qu'on s'en occupe tout de suite? Ce sera fait. Je n'aurai pas le temps de m'attarder après avoir récupéré les véhicules. Dans ce cas, je vous invite à me suivre. Elle prit dans l'Explorer un cabas contenant 2 paquets. Le premier contenait les 120 000 dollars à l'intention d'Enrique de Soto, le second 90 000. Ferrante l'entraîna à l'intérieur du bâtiment. C'est ici que sont entreposées les pièces de rechange et autres fournitures automobiles. J'y ai installé mon bureau. L'antre de Ferrante était une pièce de 10 mètres sur 10, haute de plafond, ceinte de cloisons munies de verres cathédrales en hauteur afin d'éviter toute indiscrétion. La porte se referma avec un léger clic, signalant la présence d'un verrou électronique. Jane compta 2 autres battants. Le premier s'ouvrait sans doute sur des toilettes, mais le second donnait directement sur l'extérieur. Le mobilier, un mélange de teck, de chrome, de verre et de cuir noir, était rutilant. Ce décor contrastait curieusement avec la sculpture tarabiscotée posée sur le bureau et les 4 grandes toiles dessinant un carré géant sur l'un des murs. Chacune des œuvres représentait un cœur humain de façon si réaliste, avec ses veines et ses artères, que Jane avait l'impression de voir le muscle se gonfler et se dégonfler au rythme de ses battements. Si des gouttes de sang s'échappaient de 3 des cœurs, un flot vibrant s'échappait du 4e. Tous étant prisonniers d'un enchevêtrement de ronces. Enrique avait prévenu Jane que son neveu était très religieux. Ses tableaux représentaient le Sacré-Cœur du Christ, mais de façon moderne et presque moqueuse. En dépit de sa piété, Ferrante pratiquait le second degré. « Que pensez-vous de ses œuvres ?» demanda le jeune homme. « Elles sont étonnantes. » C'est le mot juste. « Audacieuses. » Tout le monde ne comprend pas. Et très pittoresque. J'évite d'insister auprès de ceux à qui ça échappe. Vous avez bien raison. Il lui adressa timidement un coup d'œil en coin. Chaque fois que je regarde ces tableaux, je me sens profondément émue, inspirée et confirmé dans mes convictions. Le terme « confirmé » était sans doute celui qui décrivait le mieux Ferrante, comme s'il cherchait à trouver dans sa foi la justification de ses activités criminelles. Son oncle n'était pas le seul proche qui vivait en marge de la loi. Ce gamin, parce qu'il avait vu le jour au sein d'une famille plus ou moins mafieuse, se sentait obligé de poursuivre la tradition. Tout en observant la façon dont son interlocuteur admirait l'étoile, Jane entrevit une autre explication. Ricky lui avait expliqué que son neveu se rendait tous les jours à la messe. Si Ferrante s'imaginait que sa foi l'autorisait à vendre des armes illégalement, rien ne lui interdisait de cautionner d'autres crimes. Le viol et le meurtre, par exemple. Cette pensée n'était pas le fruit de la paranoïa de Jane, elle était essentiellement le fruit de son expérience. À l'époque où elle travaillait pour le FBI, elle avait arrêté un tueur en série nommé J.J. Crutchfield, qui était persuadé d'accomplir la volonté divine en tuant des adolescentes portées sur le sexe, au prétexte qu'elles risquaient de corrompre les garçons de leur âge. De cette façon, Crutchfield permettait à des jeunes gens des deux sexes d'échapper aux griffes du diable. Il conservait les yeux de ses victimes dans un bocal, convaincu que ces filles avaient aperçu le visage de Dieu à l'instant de leur mort et que leurs yeux étaient des reliques sacrées. Il avait davantage de mal à expliquer pourquoi il éprouvait le besoin de violer ses victimes avant de les assassiner. Tout en s'intéressant aux peintures, Jane prit conscience que son hôte l'observait à la dérobée. « Ce sont des œuvres inoubliables », déclara-t-elle en guise de conclusion. Elle se tourna vers Ferrante et lui trouva un sourire dérangeant, sans qu'elle puisse en expliquer la raison exacte. Elle se souvint soudain d'une remarque d'Enrique de Soto, la veille au téléphone. « Je dois avouer que c'est un drôle d'oiseau. Il fait une fixette à propos du sang. » Le jeune homme s'apprêtait à ouvrir la bouche lorsqu'il se ravisa en détournant une nouvelle fois le regard. Il ouvrit l'un des tiroirs de son bureau et sortit un Eckler & Koch compact de calibre 45 dans sa boîte d'origine. Une arme neuve, sans histoire ni passé, sans identification officielle. Ferrante se fournissait probablement auprès de son oncle Ricky. Cela signifiait que les armes qu'il proposait étaient volées et revendues avec une marge considérable. « Combien ?» s'enquit-elle. Il la regarda droit dans les yeux, sans ciller cette fois. « Je ne veux pas d'argent. J'attends de vous un trésor infiniment plus précieux. » Elle posa le cabas à ses pieds afin de garder les mains libres.